Good Morning Business, le grand entretien.
Il est 8h17 et notre invité, c'est le nouveau président de l'UMIH, Thierry Marx. Ça vous fait drôle, hein, Thierry Marx, chef étoilé, de vous présenter comme président maintenant.
Ah oui, j'ai été président de mon club de judo il y a des années. Président de l'UMIH, hein, c'est une responsabilité un peu plus lourde.
Ben oui, les professionnels de ce secteur de la restauration et de l'hôtellerie que vous représentez aujourd'hui. Tiens, un petit mot des bouchers charcutiers qui vont manifester aujourd'hui, qui vont éteindre la lumière même entre 11h et 13h, parce qu'ils n'y arrivent pas à payer leurs factures d'électricité. Lorsqu'ils ont notamment plus de 10 salariés, ils ne bénéficient pas du tarif réglementé. Est-ce que vous avez la même préoccupation dans vos métiers ?
Bien sûr. D'ailleurs, on s'est croisé plusieurs fois avec les métiers de la boucherie. Ce sont des artisans, des gens qui ont investi la plupart du temps leur dernier denier dans leurs entreprises. Et aujourd'hui, ils sont aussi touchés par cet effet ciseau de l'augmentation de l'énergie, de l'augmentation des coûts des matières premières. Ça peut s'entendre aussi, mais le coût de l'énergie devient aussi pour eux une vraie problématique et d'un effet ciseau qui va être redoutable si on n'y prend pas garde.
On a beaucoup de restaurateurs sur ce plateau qui nous disent « Moi, j'ai plus de 10 salariés parce que je fais de l'artisanal dans mes restaurants et donc je ne bénéficie pas du bouclier tarifaire. » Est-ce que vous pensez qu'il faut l'élargir ?
Il faut l'élargir, oui. Il faut revoir le curseur. C'est pas pensable, même y compris au niveau de l'énergie. Il faut revoir tout ça parce qu'effectivement, dès lors que vous êtes un artisan, que vous transformez des matières premières, et bien évidemment, bien souvent, dans la plupart du temps, vous êtes à plus de 10 salariés.
Vous avez combien de salariés dans vos différents restaurants, Thierry Marx ?
Ça dépend du restaurant. Un restaurant gastronomique, en cuisine, c'est entre 14 et 15 personnes, ouais. En moyenne. Ça, c'est pour la partie cuisine. Pour la partie salle, c'est autant. Dans une brasserie, c'est un peu plus en salle, un peu moins en cuisine, parce que les process ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je représente 450 salariés.
Ouais, et comment vous payez vos factures d'électricité alors, parce qu'elles, est-ce qu'elles ont explosé aussi ?
Alors, on avait négocié avant, donc on est un petit peu tranquille, mais globalement, aujourd'hui, les factures d'électricité ont explosé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je mesure ce que je dis. M'ont appelé, m'ont écrit en me disant, mais c'est x8, x10.
Ouais, c'est vrai.
Donc, un confrère m'a appelé en me disant j'avais une facture d'électricité à 40 000 euros, je vais avoir une facture d'électricité à 103 000 euros. Ouais. C'est x8. Il me dit je m'en sors pas. Ça, plus les prêts garantis par l'État, l'effet ciseau en novembre peut être redoutable.
Et Thierry Marx, vous avez lancé un appel aux fournisseurs d'énergie à faire un geste vis-à-vis des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Est-ce que vous avez été entendu ?
On n'a pas de réponse pour le moment, mais en tout cas, il nous faut un geste parce que nos bases, c'est-à-dire que nos adhérents disent, mais pourquoi une telle hausse ? Ils ne comprennent même pas le mécanisme de ce qui se passe quand vous passez de 40 000 euros à 100 000 euros.
Ah, c'est colossal.
Vous vous rendez bien compte, c'est colossal. C'est-à-dire que vous ne passerez pas l'hiver. Certains ne vont même pas ouvrir. Parce que vous ne pourrez pas payer la facture d'électricité.
Et vous croyez qu'il y a des abus de la part de certains fournisseurs ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être là l'État d'interroger les fournisseurs où on a l'impression qu'il y a une entente. Et c'est ça qui est dérangeant.
Autre difficulté du secteur, on le sait, c'est la pénurie de personnel. Il y a eu des augmentations de salaire. Il y a des négociations qui sont toujours en cours, hein, évidemment, sur les conditions de travail. L'attractivité, ça reste le défi premier de votre mandat à la tête de l'UMIH. Comment rendre les métiers du secteur plus attractifs ? C'est quoi ? C'est augmenter les salaires, changer, faire évoluer les coupures, proposer des semaines de travail peut-être plus réduites. Des contrats plus courts.
J'entends sur les augmentations de salaire, je pense que ce n'est pas uniquement une problématique d'augmentation de salaire. Vous savez, ce sont des chefs d'entreprise responsables, souvent, quand il faut garder les collaborateurs, l'augmentation de salaire se fait. Quand elle ne se fait pas, c'est que l'entreprise n'a pas suffisamment de résultats pour augmenter ses salaires. Ce n'est pas simplement une augmentation de salaire. C'est-à-dire que la problématique que je vais associer aussi à cela, du recrutement, c'est aussi le logement. Il y a une vraie problématique de logement et encore plus sur les saisonniers. Aujourd'hui, vous ne trouvez plus de logements saisonniers. Aujourd'hui, on a des confrères et des consoeurs qui s'organisent pour construire leur propre logement et demander une fiscalité par rapport à cela parce qu'ils n'arrivent plus à se loger. Quand vous avez 120 jours de Airbnb dans des zones touristiques, bien, il est bien évident que vous ne trouvez plus à loger votre personnel. Donc, il y a des problèmes de mobilité, il y a des problèmes de logement qui, effectivement, font baisser l'attractivité de nos métiers et pas simplement la rémunération.
Et il y a un problème aussi de rapport au travail, car radicalement, radicalement changer des jeunes générations.
Bien sûr,
c'est ce que vous dit.
C'est ce que j'ai exprimé au dernier congrès. Il faut regarder aussi la société telle qu'elle est. Nous avons des jeunes gens qui nous disent « Je ne veux plus un rapport sacrificiel au travail. » Et ça s'entend. Donc, je ne suis pas contre la coupure, mais je veux 3 jours de repos ou je veux qu'on me replanifie mon travail un petit peu différemment. Et ça aussi, il va falloir y faire attention parce que c'est une nouvelle société. C'est après Covid, où c'était sous-jacent avant cette crise sanitaire. Après la crise sanitaire, on a une vraie relation au travail qui est un peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de télétravail et ces branches-là ne peuvent pas faire de télétravail. Donc ces gens veulent une compensation sur le rôle social aussi de leur vie. Comment je retrouve une activité sociale autour de mon activité professionnelle. Tout ça, il faut en prendre compte, il faut regarder comment on replanifie nos métiers et peut-être regarder avec l'État, avec le régalien, ce que c'est qu'une nouvelle convention collective par rapport à nos métiers. Ça peut s'étudier.
Oui, mais une nouvelle convention collective, justement, les syndicats de salariés disent que autant ça a avancé sur les salaires, il y a des augmentations très substantielles, hein, 7-8%, les grilles qui ont été revues, autant justement sur les conditions de travail, par exemple, quelle est la durée de la pause entre les deux services? Est-ce qu'il faut continuer à faire deux services aux employés? Comment indemniser le travail le dimanche? Aujourd'hui, c'est un jour comme un autre. Est-ce que tout ça doit être codifié, selon vous, par le secteur? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a l'impression, en tout cas c'est ce que nous disent les syndicats, que le patronat freine?
Je crois que le patronat ne freine pas. Le patronat a compris les enjeux de l'attractivité de ces branches. Il faut qu'elles continuent à avancer là-dessus. Il faut s'asseoir autour d'une table, qu'est-ce qu'on entend. Et il faut effectivement replanifier le travail. Donc c'est dans ma mission, moi j'ai beaucoup misé sur l'impact social et l'impact environnemental. L'enjeu premier, mon premier dossier, va être l'enjeu et l'attractivité métier.
Et il va falloir jouer aussi sur la nature des contrats de travail. Vous sentez que ça va changer aussi là-dessus, enfin, qu'il faut changer?
Oui, parce que je pense qu'il y a de nouveaux types de contrats de travail à créer dans ces secteurs.
Vous pensez à quoi?
J'ai pas comme ça d'idée, mais je pense qu'il faut cette replanification du travail. Mais vraiment, quand on voit aujourd'hui sur la coupure, dès lors que j'ai replanifié le travail dans mes entreprises, les gens m'ont dit, non, la coupure, c'est plus un problème. J'ai mes 3 jours de repos.
Je sais que la coupure, c'est le temps pendant lequel, entre le service du midi et le service du soir, le salarié n'a rien à faire. Et en même temps, c'est trop juste pour rentrer chez lui.
Voilà. Et effectivement, il y a besoin de replanifier cela. Et puis, il faut aussi admettre, et les gens qui rentrent dans notre secteur d'activité, ils le comprennent, que nous travaillons quand les autres se reposent.
Ouais.
Donc, ça nécessite aussi une compensation qui doit être sur des horaires et une replanification, comme je l'ai évoqué, du travail.
Est-ce qu'il y a un risque d'ubérisation de vos métiers, par exemple, de certains restaurants qui se voient proposer, pas des intérimaires, mais carrément du travail à la tâche, de salariés qui sont ubérisés par des plateformes?
Complètement.
Ah
oui, c'est ma grande inquiétude, parce que ça abîmera beaucoup le métier. Vous savez,
ça commence, ça, déjà?
Oui. Oui, bien sûr, on a des sociétés qui viennent nous proposer du personnel qu'ils embauchent, eux, enfin qu'ils prennent en auto-entrepreneur et qui nous refacturent un peu comme le faisait le monde de l'intérim à une époque. Donc c'est aussi un monde qui change. Cette ubérisation, elle s'est développée dans tous les secteurs d'activité et aujourd'hui, elle abîme quelque chose qui est la qualité et la régularité du travail. Donc il faut y faire attention, il faut mesurer ça dans le détail.
Et comment se passe la conjoncture du secteur de la restauration en ce moment? On a l'impression, c'est ce que nous disent vos collègues, que ça marche très bien, que les gens ont envie de se faire plaisir, que la facture moyenne augmente. Est-ce que c'est ce que relève toute la profession?
J'ai envie de dire.
Vous avez un grand sourire.
Oui, non,
pour ceux qui sont en radio,
mais
qui
non,
est formidable.
Mais c'est le sourire bien. Parce qu'effectivement, on est dans un mouvement où les gens ont envie d'être heureux. Ont envie de partager des moments de convivialité, ont envie de bouger, de voyager. Et bien effectivement, depuis quelques mois maintenant, cet après-Covid est une embellie au niveau de notre secteur d'activité. Alors, on assume des choses qui sont dures. Le coût de l'énergie, on en a beaucoup parlé. Le coût des matières premières, en 30-40% sur certains produits.
Ou l'alimentaire,
c'est colossal. Et puis, le coût du travail qui a augmenté aussi. Tout ça fait quand même peser une pression un peu anxiogène pour l'ensemble de la profession.
Mais pour l'instant, c'est vrai que la demande est là.
Le flux est là.
Et que c'est une bonne dynamique.
Les touristes sont là aussi.
C'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Les touristes sont là. Beaucoup de touristes américains depuis l'après-Covid. Beaucoup de touristes américains qui ont été très fidèles. Et puis, une remarque aussi, c'est qu'on passe vers une façon différente de voyager. C'est-à-dire qu'on a connu des voyages un peu saut de puce avec un coût carbone très élevé. Aujourd'hui, on part plutôt dans du slow travel. Et on prend son temps. Et ce qui est très, très bon pour notre ruralité, parce qu'on a envie d'aller découvrir des choses assez émotionnelles en France, au cœur des régions, et pas rester simplement sur des grandes villes ou des zones littorales. Et ça, c'est très intéressant, et d'accompagner aussi cette ruralité à faire cette transition environnementale qui est absolument nécessaire.
Alors, il y a un peu de politique aussi dans le secteur, avec la réunion de plusieurs fédérations professionnelles, SNRPO, le SNRTC et le GHR, qui sont regroupés. Bon, ils sont plus petits que vous, mais ils sont quand même regroupés. Et Bruno Le Maire qui appelle à un regroupement des forces patronales. Vous allez vous aussi participer à cette, à ce, à cette fusion ?
Non, non. Bruno Le Maire est un ministre fort intelligent, mais il n'a pas à nous proposer quoi que ce soit. Je pense que l'UMI est une grande maison, qui a 80 ans, qui est née après-guerre, en gros, hein, et on est prêt à accueillir tout le monde.
La fusion dans l'autre sens, alors.
Voilà, nous, on est très ouverts, mais je pense qu'on a mené des combats. Vous parliez du GNI, du GNC, on mène des combats communs. Et je pense que chacun a son identité propre, son histoire. Et je pense que quand on peut se rassembler, on se rassemble sur des sujets qui sont sur l'attractivité métier, tout ce qui est social dans notre métier. Et ça, je pense qu'on peut mener des combats ensemble.
Bon, vous nous avez donné faim, en tout cas.
Merci.
Merci beaucoup, Thierry Marx.
Merci.
Je rappelle que vous êtes donc chef étoilé, évidemment, et nouvellement président de l'UMIH.